Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour les amis, je prends la suite de notre ami Grégoire. Il est 15h20, passé 3 minutes. Vous êtes sur Immo, vous êtes sur Territoria. J'ai souhaité garder sur le plateau Julien Chambon, le maire de Houille. Bonjour, rebonjour.
Bonjour, merci encore de l'invitation.
Je voulais qu'on fasse un petit face-à-face, quelques minutes, rapidement, pour justement parler un peu plus politique en ancrage. Je voudrais vous faire réagir sur, un, les premiers contours du projet de loi de finances qui pose question, avec de grandes orientations. Poser la question exactement à la demande des maires, telle qu'il est dit, de l'augmentation des droits de mutation à titre onéreux, de 0,5%. Et enfin, de l'injonction, presque de l'injonction, faite aux maires, par les pouvoirs publics, par le pouvoir exécutif, par l'État, d'être vigilant sur le plan budgétaire, ce que vous étiez déjà, mais encore plus que ça, de même faire des économies en vous attribuant des compétences supplémentaires. Il n'y a pas un souci, quelque part, pour les maires, là, du coup ? Est-ce qu'il y a un coup de ras-le-bol ou de... Non ?
Oui, je pense qu'il y a un gros souci. Parce qu'on est en train d'enclencher une espèce de machine à perdre. Si, à un moment donné... Il faut comprendre que les collectivités, les villes, moi je suis maire de la ville de Houille dans les Yvelines, magnifique ville des Yvelines, on gère au quotidien les services publics dont les Français ont tous besoin. Vous avez besoin d'une route pour aller travailler, vous avez besoin d'un transport en commun, vous avez besoin d'une crèche pour votre enfant, d'une école pour votre enfant. On fait tourner le pays. Si à un moment donné le signal qui est envoyé, c'est l'État, pour se désendetter, va tirer sur ceux qui investissent pour le quotidien des Français... Bah on enclenche quoi ? On enclenche un cercle vicieux. Les villes, ce sont aussi les premiers investisseurs de France. Quand on construit des écoles, quand on construit des gymnases, quand on aménage pour le quotidien des Français, on fait aussi tourner l'économie. Donc dire, le message qui a été envoyé était extrêmement, on va dire, peut-être précoce aussi dans la préparation budgétaire, dire 5 milliards d'économies sur les collectivités territoriales, c'est en fait s'opposer bêtement et l'État et les villes. Ça ne sert à rien. Et ça a été dit, les villes gèrent leur budget en bon père de famille, de façon cohérente. Tous nos budgets sont équilibrés. Je pense que le dernier budget en équilibre de l'État, il doit dater des années 70.
1979. Mais alors justement, Julien, ok, une fois qu'on a dit ça, est-ce que il n'y a pas moyen de dire, avec tous les maires de France, on va dire stop à l'État jacobin, à l'État donneur de leçons, qui est d'ailleurs tout sauf vertueux, puisque on a un coût de la dette qui est absolument phénoménal. Et on vous dit, outre le fait qu'on vous a transmis des compétences, de faire attention et même de faire appel finalement à l'impôt public. C'est-à-dire que, parce qu'in fine, c'est vous qui allez payer, ce sont vos administrés, les citoyens. Alors, bien évidemment, on est tous concernés. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, peut-être, l'opportunité de dire, il faudrait peut-être réfléchir maintenant, ou on demande, ou on enjoint l'État, on inverse finalement l'injonction en disant il faut qu'il y en ait une réelle réforme, peut-être institutionnelle, qui vous permettrait, par exemple, de renforcer votre pouvoir, d'avoir d'autres leviers fiscaux pour vos recettes. Parce que, alors, ok, on peut comprendre que vous vouliez, que les départements sont pour l'augmentation des DMTO, mais en même temps, vous avez tellement enlevé de leviers fiscaux que ça devenait incroyable. Est-ce que vous y êtes favorable à l'augmentation des DMTO ?
Alors,
pour ou contre ?
Très clairement, j'y suis plutôt défavorable à ce stade-là parce que ça peut handicaper l'immobilier.
Et les primo-accédants qui seront les premiers à...
Je pense que c'est... Attention, parce que on ne peut pas, comment dire, refaire un... Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Le marché immobilier, vous ne le maîtrisez pas en soi. C'est pas la puissance publique qui décide de faire en sorte que tout le monde puisse acheter du jour au lendemain. Néanmoins, on peut envoyer des signaux, on peut freiner. Là, le risque avec les DMTO, c'est que vous allez encore plus handicaper, en effet, des gens qui vont acheter, et peut-être pour la première fois. Ce sont les fameux frais de notaire qu'on paye chez le notaire et qui vont alimenter...
Bah, droits de mutation, parce que frais de notaire,
les droits de mutation,
les pauvres notaires ne touchent qu'une toute petite partie.
Voilà, mais les gens, c'est le terme qu'ils connaissent.
Mais oui, c'est vrai.
Quand payent une forte somme chez le notaire, on appelle ça des frais de notaire, il y a une toute petite, c'est sa rémunération en tant que travail, parce qu'il y a un travail juridique fondamental qui est fait par les notaires, essentiel. On a besoin d'eux, bien sûr, pour sécuriser nos transactions, c'est vital, mais il y a une grande partie qui vient dans les collectivités locales. Donc, je dis que c'est pas une bonne idée parce que par rapport au marché immobilier, ça va pas arranger vu le contexte. En revanche, on a un vrai problème sous-jacent. Les départements des Yvelines, par exemple, dans lequel je suis élu, dépend énormément dans ses ressources de ces fameux droit de mutation.
C'est ce que me disait Pierre Bédier lorsque je l'ai eu la semaine dernière. À
ils ont chuté massivement.
Absolument.
Ça veut dire que concrètement,
quasiment
le département des Yvelines a perdu 270 millions d'euros, je crois, en moins d'un an et demi.
Exact.
Cet agent-là, il ne se partait pas en fumée, il était réinjecté dans le territoire. Et le département des Yvelines était extrêmement proactif là-dessus. Pour le coup, c'était une spécificité. Il aidait énormément les communes à investir pour le quotidien de nos habitants. Grâce au département, à Houille, par exemple, on a refait une crèche, on a refait une école maternelle. On avait vraiment une action concrète. Donc cet argent était bien utilisé parce qu'on parle de dette. Mais de quoi parle-t-on ? Une dette pour fonctionner, pour payer les salaires, ou une dette pour payer les investissements de demain dont on a besoin ? C'est ça la grosse différence avec l'État et les collectivités. C'est que nous, quand on va s'endetter, c'est pour investir. C'est du positif, c'est pour améliorer. Moi, j'avais une crèche en mauvais état, j'ai investi dans une nouvelle crèche en bon état. La valeur du patrimoine de la commune a été augmentée grâce à ça. C'est une bonne dette, parce qu'elle va nous permettre de moins consommer demain et de mieux servir. Là où on a une difficulté avec l'État, c'est comme il peut voter des budgets en déséquilibre, c'est qu'il va payer une partie de son administration à crédit. Et là, on a une vraie difficulté structurelle. Et c'est pour ça que je disais sur les départements, c'est peut-être compliqué pour nous. Alors, on parle de réforme institutionnelle. Les gens, ils pensent quoi ? Logement, énergie, comment je vais trouver du boulot ? Je ne suis pas sûr que la réponse soit dire comment on réforme les institutions, ça ne leur parle pas beaucoup. Néanmoins, il faut comprendre que le département, ça verse, par exemple, le revenu social, le revenu de solidarité, le RSA. Aujourd'hui,
c'est le conseil départemental.
Conseil départemental qui le verse pour le compte de l'État. Sauf que l'État ne donne pas au département l'argent que lui coûte le RSA. Donc il doit le prendre aussi dans ses propres ressources, d'où la difficulté. Quand vos ressources plongent, comme en ce moment avec la crise immobilière, et que le RSA augmente.
C'est possible, ça ?
Bah, bien sûr que c'est possible. C'est le débat qui existe entre les collectivités.
C'est une attribution du département de payer le RSA sur
le département
sur ses
paye le RSA, mais normalement, il ne devrait pas le payer avec ses propres recettes. Et là, on a un effet ciseau redoutable. Et c'est ça le danger aujourd'hui, parce qu'on ne doit pas opposer l'État et les collectivités. Chacun doit faire sa capacité à faire. Moi, je ne peux pas faire certaines choses que l'État peut faire. Moi, je fais des choses que l'État, aujourd'hui, ne serait pas capable de faire. On est complémentaires. Mais le département, quand il a des dépenses sociales qui explosent et quand il a des ressources qui diminuent, on fait quoi ? On crée une machine à perdre. Et on met tout le monde dans l'embarras. Et là, les Français se disent, vous êtes nuls. Vous êtes nuls, je suis désolé.
Dernière question. Avec le PLF et les orientations qui seront prises, à quoi vous vous attendez, vous, politiquement, dans les semaines à venir ?
Bien malin, celui qui saurait répondre.
Un coup de 49-3
Moi, je vais vous dire, je suis heureux d'être maire. Parce que quelque part, on offre de la stabilité à nos citoyens.
Ben oui, bien sûr.
On offre de la stabilité, de la visibilité qu'aujourd'hui, on n'a plus au niveau national. C'est vrai, il faut le reconnaître. Donc, j'ai envie de dire, si on peut être un repère aussi pour que ça rassure les citoyens, on gère bien l'argent local, au local, on investit pour l'avenir de nos enfants, au moins, ça fait un endroit où c'est stable pour les Français et pour les habitants. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une crise de régime à l'échelle nationale. Et là, franchement, bien malin celui qui prédira l'avenir pour les deux prochaines années.
2025 va marquer l'entrée en campagne pour les municipales de 2026. Vous représentez-vous, Julien Chambon, à Houille ?
Ah, vous savez, quand on aime la ville de Houille, on ne peut pas s'en passer. Et puis, plus simplement, quand on lance des projets dans un premier mandat, c'est toujours difficile de tout délivrer en 4 ans, en 5 ans, en 6 ans. Surtout quand on a l'ambition de maîtriser l'urbanisme dans sa commune, de pouvoir construire de grands équipements. Donc,
C'est donc une annonce de représentation pour le mandat de maire que vous faites à Houille.
Oui, il y a encore des choses à délivrer, attention, hein. Le bilan n'est pas terminé, il reste encore un an et demi, il ne faut pas tout précipiter.
D'accord.
Mais bien sûr, il y aura un plaisir en tout cas à continuer à servir les habitants.
En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir à parler avec des élus comme vous, parce que vous incarnez cette génération nouvelle d'élus engagés pour le bien public et l'intérêt général.
Et
merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation.
C'est gentil, on lâche rien.
Merci. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour une table autour de l'urbanité et des défis urbains avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, le vice-président de la région, qui nous fait le plaisir de participer à cette table ronde avec des certificateurs également et des acteurs de la ville. On se retrouve dans quelques instants.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.